Je voudrais vous parler de... C'est vraiment intéressant. D'abord, Aldora, ce matin, vous savez, tous les dimanches matin, on se réunit avec le groupe de louanges. On prie avant, mais on prie aussi avec l'équipe de louanges, l'équipe sono et ceux qui passent la vidéoprojection. Et Aldora a partagé quelque chose ce matin qui vient dans la confirmation de ce que je veux vous donner, à savoir que nous ne pouvons pas bâtir quelque chose de solide sans une vie, une culture de prière conséquente. Si vous ne priez pas, vous ne bâtissez pas. Si vous ne priez pas, vous n'avez pas d'impact sur ce monde. Et vous savez, lorsque Jésus enseigne la prière, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Et je pense que lorsque Jésus dit cela, c'est qu'il veut nous faire comprendre que nous sommes acteurs dans le fait que Dieu veut amener son règne dans la vie des gens, dans notre cœur, dans l'entourage des personnes que nous connaissons, mais aussi, pourquoi pas, sur cette terre. Je crois que Dieu veut impacter ce monde. Et vous savez qu'il y a des grandes difficultés pour ceux qui veulent vraiment bâtir une vie de prière. Est-ce que c'est facile pour tout le monde de prier ici ? Moi aussi, j'avoue que j'ai des combats dans la prière parfois. Et surtout, lorsque les choses ne vont pas très bien. Avez-vous remarqué cela ? Quand tout va bien, on y arrive facilement. Mais quand tout va mal, ou quand des choses sont un peu plus difficiles, on se rend compte en réalité que... Je partageais ça avec les parents d'Ophélie hier matin. On a prié pour nos enfants. Et on se disait que quand... Les difficultés étaient là lorsqu'il y avait des combats, ce qu'on appelle des combats dans le jargon charismatique, évangélique, tout ce que vous voulez. Lorsqu'il y a des combats, on a plutôt tendance à faire le dos rond. Avez-vous remarqué cela ? Et moi, j'ai un exemple à vous donner qui n'est pas le mien. Ne suivez pas toujours le mien parce qu'il n'est pas forcément bon. Mais il y a un exemple dans la Bible qui est vraiment juste. C'est la première partie d'un enseignement, peut-être que j'en donnerai deux. Je vous parlais de la vie de prière de Daniel. Et Daniel, pour moi, c'est vraiment un exemple d'une vie de prière qui a impacté le monde. Ça n'a pas simplement impacté sa vie personnelle, mais on va se rendre compte ce matin qu'il a fait des choses dans la prière et ça a provoqué même quelque chose qui était, j'irais bien au-delà de la nation babylonienne. Ça a eu un impact dans tout l'empire babylonien. Cet homme s'est retrouvé dans sa chambre. Il a prié 3 fois par jour. Il était à genoux et il a dit qu'il louait, il priait Dieu. Donc, ce qu'on fait le dimanche matin, c'est important aussi d'adorer. Vous savez qu'il y a de l'importance à louer et à proclamer les choses que Dieu, qui est Dieu. Le dimanche matin, quand vous venez pas justement faire un exercice vocal, mais vous venez proclamer des choses, vous venez annoncer des choses. Et ça a un impact, contrairement à ce que vous pouvez penser. Ça a un véritable impact. Quand quelqu'un se met à genoux, quand quelqu'un prie, quand quelqu'un cherche Dieu, ça a un impact qui va bien au-delà de l'endroit de la chambre où il se trouve, la chambre ou peu importe où vous priez. Mais ça va bien au-delà de cela. D'accord ? Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait Dieu, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Apparemment, il y a un décret qui a été écrit par le roi Darius, qui était le roi perse, babylonien. Ce roi écrit quelque chose. Pourquoi il écrit ces choses ? C'est parce que Daniel est en train de rentrer dans son appel. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la Bible, vous savez que Daniel a été fait prisonnier tout petit, tout jeune. Il était à peine adolescent, il était à Jérusalem, et parce que le peuple de Dieu s'était tourné vers les idoles, Dieu a permis que les Babyloniens viennent détruire Jérusalem et amener un certain nombre de personnes en Babylone. Et à Babylone, Daniel, dès qu'il était tout jeune, il a été mis au service du roi, qui s'appelait à l'époque Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, j'arrive à le dire, donc on va prendre ça comme version. Et dès que ce roi est arrivé, dès qu'il est arrivé dans le giron de ce roi, on a voulu lui donner des mets impurs. La loi, la Torah disait qu'il ne pouvait pas prendre certains aliments. Il a dit, il est hors de question que je me souille. Déjà, il avait une attitude de vouloir marcher avec Dieu, d'obéir à Dieu. Ça, c'est déjà quelque chose que vous devez comprendre si vous voulez que votre prière impacte le monde. Il marchait avec Dieu. Et puis, Daniel grandit, et de plus en plus, il grandit. Et le roi babylonien avait nommé 120 ministres à peu près, ou 120 petits gouverneurs de différentes provinces. Et à la tête de ces 120 gouverneurs, il y avait trois chefs, dont Daniel, parce que Daniel était de plus en plus reconnu par le roi. Il voyait en lui un homme d'État, il voyait en lui vraiment quelqu'un sur qui il pouvait compter, sur qui il pouvait baser son royaume. Et Daniel, il provoque la jalousie. Il a les autres chefs et les autres gouverneurs, parce que le roi Darius est en train presque de le nommer premier ministre. C'est l'Édouard Philippe de l'époque. Il est en train de... À part que la France n'est plus un empire. Il est en train de le nommer premier ministre. C'est-à-dire que ça va être l'homme qui va pouvoir presque influencer le roi avec les valeurs du royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Il est en train d'être placé à un niveau tel qu'il rentre dans son appel. Mais ça provoque une réaction. Ça provoque une réaction de la part des gens qui sont avec lui, de tous les gouverneurs, des deux autres chefs. Et ils provoquent quelque chose, ils disent « Ô roi Darius, que dans les 30 jours qui arrivent, qu'aucun homme n'adresse une prière à un dieu que ce soit, qui que ce soit, qu'aucun, à quelque dieu ou à quelque homme, excepté au toi, roi Darius. Et s'il le fait, qu'il soit jeté dans la fosse au lion. » Il va le manger tout cru. Et là, donc, il y a un décret qui arrive, un premier décret écrit par la main d'un homme. Mais en réalité, vous voulez que je vous dise un truc ? Quiconque veut marcher avec Dieu et quiconque veut obéir au Seigneur et quiconque veut avoir une vie de prière conséquente, il y aura des décrets qui seront déclarés contre cette personne. Ah, je ne vous encourage pas trop là. Honnêtement, vous aurez la paix dans votre vie tant que vous resterez assis à regarder, je ne sais pas moi, le meilleur pâtissier. Mais dès lors que vous allez éteindre votre télé et que trois fois par jour, je donne trois fois parce que l'exemple de Daniel, hein, vous pouvez aller jusqu'à 10 si vous voulez. Dès lors que vous allez vous mettre à genoux devant Dieu, ça provoque automatiquement des réactions. Parce qu'il y a un appel à gouverner. Vous avez tous un rôle de gouvernant dans votre propre famille, dans votre propre maison, dans votre propre église peut-être. Je parle aux responsables de cette communauté. Mais au niveau de votre travail aussi, vous avez un job et vous avez automatiquement quelque chose à représenter. Il y a une forme de représentation du royaume là où vous êtes. Et dès lors que vous voulez faire ça, dès lors que vous voulez marcher avec Dieu, je peux vous le dire qu'il y a une réaction. Il y a automatiquement des décrets qui sont provoqués. Et là, moi, je me pose une question parce qu'il y a un premier décret, mais il y en a un second. Dans le livre Daniel, chapitre 6, à la fin du chapitre, il est écrit « J'ordonne ». Donc Darius qui a écrit 30 jours auparavant, peut-être pas 30 jours, mais quelques jours auparavant, Darius qui a écrit le décret « C'est moi qui suis Dieu ». En gros, il est en train de décrire ça. Il dit, je suis le souverain suprême de Babylone. Qu'on adresse des prières à moi. Il est en train d'écrire plus loin, j'ordonne Darius. Il dit ça, que dans tout mon royaume, on ait la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Mais quelle différence de ton et quelle différence de substance entre le premier décret et le second, non ? Dites oui pour me faire plaisir. Oui. Car il est vivant. et il subsiste éternellement. Son royaume et sa domination durera toujours. Et là, vous avez l'exemple même d'une prière que vous adressez à Dieu et qui dit « Ô Père, que ton règne vienne » et qui est en train de se réaliser. Si vous n'y voyez pas là l'application concrète de la prière qu'ordonne Jésus, « Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne », dites-moi où vous allez le trouver. Ça veut dire qu'avant même la venue de Christ, Dieu voulait amener son règne parmi les nations, établir son règne dans les cœurs. Et pourtant, je peux vous dire que Darius, ce n'était pas un gentil roi. Hein. Au milieu de ces deux décrets, vous voulez que je vous dise ce qui se passe ? Il y a un homme droit, il y a un homme intègre qui a maintenu une vie de prière permanente. Je ne dis pas qu'il a créé une vie de prière. Non, il a continué de prier. Et là, on le voit. Daniel progresse vers une haute fonction gouvernementale dans l'Empire babylonien. Il se distingue des autres gouverneurs, c'est un petit résumé pour que vous puissiez retenir et moi aussi, au point que Darius pense à faire de lui un premier ministre. Tout cela est le résultat d'une véritable droiture et une vie de prière conséquente. Aussi, Satan s'oppose à Daniel, à son appel par l'attaque, à sa source. Obéissance et prière. Vous voulez que je vous dise ? Désobéissez et arrêtez de prier, vous serez vaincus. Cette église, si elle s'arrête de prier et si elle désobéit, elle sera vaincue. Et clairement, l'ennemi veut faire taire Daniel pendant 30 jours pour limiter sa capacité à gouverner. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 1, il est écrit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et la Bible dit que nous avons reçu une autorité. Alors, des niveaux d'autorité différents. Mais nous, en Christ, nous avons tous une autorité. Mais vous savez ce que Satan veut faire ? Il veut toucher à cette autorité. Il veut vous empêcher d'impacter le monde. Il veut vous empêcher, il veut empêcher votre voisin de connaître Dieu. Il veut empêcher cette société d'avoir au moins une certaine connaissance de Dieu. Aussi, tous les peuples d'enfants de Dieu, tout le peuple de Dieu qui veut gouverner doit prier. Et il doit amener une culture de prière dans sa propre vie. Je sais, c'est « il doit », mais je n'ai pas d'autre mot. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi avec nous. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Autrement dit, j'espère que ça va bien dans ta vie. Mais sache une chose, c'est que si déjà, quand ça va bien, tu ne vis pas une vie d'obéissance et de prière conséquente, le jour où ça va devenir difficile, tu ne seras pas en capacité de réagir. Là, ce n'est pas ce que Daniel a fait. Dès l'âge, dès son jeune âge, il priait. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, maintenant, on va regarder ces trois actions importantes. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. La première des choses qu'il fait, c'est qu'il rentre délibérément en prière malgré les interdictions et les oppositions. Vous voulez que je vous dise un truc ? La première des choses que Dieu fait, que Satan fait parmi les chrétiens, il intimide. Vous savez ce que c'est que l'intimidation ? Tout le monde sait, comprend ce que c'est que de l'intimidation ? Là, on est en train de dire à Daniel, arrête de prier, sinon tu finis dans la fosse aux lions. Et Daniel, que fait-il ? Et j'aimerais que vous regardiez ça. Il ouvre sa fenêtre. Ses fenêtres sont ouvertes. Et ça, on va voir à peu près ce que ça veut dire après. Il ouvre, il ne se cache pas. Il proclame les choses. Et il rentre délibérément en prière. Moi, j'ai un exemple parfait de l'intimidation, qui est Goliath. Goliath qui va intimider le peuple pendant, je ne sais plus, 40 jours. C'est 40 jours. Enfin, j'aurais pu être pasteur. Pendant 40 jours, vous connaissez l'histoire, hein ? les Philistins ont une armée qui vient, ils viennent attaquer Israël. Ils viennent attaquer le peuple, le royaume d'Israël. Et il y a parmi ce peuple un gars qui fait, je ne sais plus, qui est très grand. Enfin bref. Plus de 3 mètres. Et il vient avec sa lance, il est écrit, avec sa lance, avec son javelot et son épée. Et pendant, dans la vallée, pendant 40 jours, il va haranguer, il va intimider le peuple, l'armée de Dieu. Elle va être intimidée. Pendant 40 jours, il leur dit, qui viendra se battre contre moi ? Votre Dieu, il est quoi votre Dieu ? Il intimide. Comprenez ça ? Et pendant 40 jours, vous allez avoir des gens qui vont être immobiles. Parce que leur culture, c'était d'être sûr, d'être vainqueur, ou je ne sais pas, ou, ils n'avaient pas l'habitude de se battre contre ce type d'esprit ou de personne, peu importe. Et ces gens commencent à se cacher. Ils disent, ouais, vas-y, toi. Vous connaissez les gens, hein. Allez, on y va tous, les gars. Et puis, arriver devant la difficulté, il y a une chanson qui dit, 3 pas en avant. Hein ? Et si tu veux remporter des victoires, tu ne peux pas être comme l'armée d'Israël. Mais tu dois être comme David. Et David, vous savez ce qu'il fait ? On va essayer de lui filer des lances, des armures, etc. Il dit non, c'est trop lourd pour moi. C'était un gamin, David. Il avait sa faiblesse physique, David. Il avait ses difficultés, David. Il avait été sans doute rejeté, David. Il a même été loin à part, David, roi. Mais qui aurait cru en cet homme ? Même son frère se met en colère contre lui. Nul n'aurait parié un copec sur cet homme, sur ce jeune garçon. Et que fait David ? Vous savez ce qu'il fait ? Moi, je vais y aller. Et que fait David ? David, il enlève toutes ces armures-là, tout ce que les autres veulent lui donner, mais il va avec ses propres capacités. Mais surtout, que fait-il ? Il va voir Goliath. Il dit, tu insultes mon roi, mais tu insultes aussi en insultant mon roi, tu insultes son armée. Voilà ce qu'il dit. J'ai relu le passage ce matin, vous pouvez aller vérifier. Et que fait-il, David ? Il dit, toi, tu viens avec ta lance, avec ton javelot et ton épée. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? Le bouclier de la foi avec lequel vous allez éteindre les traits enflammés du malin ? Ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? Avec sa foi, il dit, maintenant, au nom de l'Éternel, mon gaillard, t'as beau faire 3 mètres de haut, je vais te zigouiller. Et certains prennent ça pour de l'orgueil. Mais ce n'est pas de l'orgueil. C'est la foi à renverser des géants devant lui. Et l'ennemi utilise ça souvent dans nos vies. Il vous intimide. Il m'intimide. Et la réaction que je dois avoir face à l'intimidation, c'est la foi. Et là, on en vient tout de suite après ce que fait Daniel. Daniel, il rentre délibérément en prière. Et la deuxième chose, c'est qu'il prie avec une mentalité d'homme du royaume de Dieu. Regardez ce qu'il fait. Il ouvre ses fenêtres vers Jérusalem. D'abord, il ouvre une fenêtre. C'est important. Mais vers Jérusalem. C'est-à-dire que quand il prie, il ne prie pas en regardant Babylone. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il ne regarde pas Babylone. Il ne regarde pas les difficultés. Il ne regarde pas les situations. Il ne regarde pas la fosse au lion. C'est pas ça qu'il regarde. Mais quand il prie, il se tourne vers autre chose. Et nous avons quelque chose de bien plus grand que Jérusalem. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la Bible qui décrète des choses nous concernant, qui décrète des promesses. Quand tu ouvres une fenêtre dans ta vie, ouvre la fenêtre des promesses de Dieu. Ouvre la fenêtre de ce que Dieu dit sur toi, sur ce que Dieu dit sur ta vie. C'est les fenêtres que tu dois ouvrir et tu dois fermer les fenêtres de Babylone et ouvrir les fenêtres du royaume de Dieu. Voilà, il se lève, il entre délibérément en prière, Mais il ne prie pas en disant « Oh Père, tu vois, je vais finir dans la fosse au lion. » Non, il dit « Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. C'est une promesse que tu me fais dans ta parole, Seigneur. » Est-ce que vous comprenez ça ? Sa prière, ce n'est pas une prière de lamentation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas confier des choses à Dieu. Mais quand tu veux rentrer dans un combat comme ça, à un moment donné, tu dois défier l'esprit d'intimidation par ta foi. Et la troisième chose, c'est qu'il met une grande intensité dans sa prière. 3 fois par jour. Depuis que j'ai préparé, j'essaye de le faire. Et je le fais. Et j'attends un résultat demain matin. Demain matin, j'espère qu'un grand combat, le grand combat que j'ai mené cette semaine, soit remporté. 3 fois par jour, il se met à genoux pour prier et louer. Est-ce que vous comprenez ce qu'il fait là ? Il prie, il loue l'Éternel. Il loue son Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la louange, par la louange, nous pouvons remporter de grandes victoires ? Je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de mes ennemis. Il lança des prières victorieuses vers le trône de Dieu. Donc il prie délibérément, c'est-à-dire qu'il rentre en action malgré l'intimidation. La deuxième chose, c'est qu'il prie, non pas en se lamentant, mais en proclamant les promesses de Dieu. Et la troisième, c'est qu'il ne se relâche pas. 3 fois par jour, il prie. Il y a une forme de régularité, de persévérance. Malgré une attaque d'une grande intimidation, je sais qu'il y a des fosses aux lions qui nous attendent. Je ne dis pas qu'on n'aura jamais de fosses aux lions. Souvent, on vous a fait croire, oui, mais cela ne peut pas t'arriver. Non, je vous le dis, il y a des fosses aux lions, même pour ceux qui obéissent et même pour ceux qui prient. Mais ce que je sais, c'est que toute arme forgée contre nous est brisée au nom de Jésus. Pourquoi ? Jésus n'a jamais promis qu'on ne serait pas persécuté. Mais il a promis que nous serons vainqueurs. Il a promis qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et les apôtres, les écrits des apôtres, et l'apôtre Pierre l'a écrit, « Ne vous étonnez pas de ce que vous passez par ces temps difficiles. » Si quelqu'un vous dit « Viens à l'église et ça ira mieux », il se trompe, ou elle se trompe. La vie est rempli et jonché de difficultés, de combats, de souffrances. Mais ce que je sais en voyant ça, vous connaissez l'histoire de la fosse au lion ? Je vous la raconte. Le roi, il aimait, le roi Darius, il aimait Daniel. Quand on vient lui annoncer la nouvelle, il est défait, le pauvre. Non seulement on lui enlève son plus proche collaborateur, celui à qui il a parié vraiment quelque chose. Mais la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a une affection de Darius envers Daniel. Mais malheureusement, en tant que roi, il ne pouvait pas... C'était la loi perse, la loi babylonienne. On ne pouvait défaire un décret. Et lorsqu'il apprend que Daniel a continué de prier, c'est à contre-cœur qu'il le met dans la fosse aux lions. Et il dit, Darius... Puisse le Dieu que tu sers avec persévérance te garder, Daniel. Il finit par prier pour son serviteur. Et que se passe-t-il ? La nuit, semble-t-il. Bon, ils mettent une grosse pierre dans la fosse au lion. Ils mettent, je ne sais pas, ils scellent par le roi Darius pour être sûr que personne ne puisse y aller. Le roi va se coucher. On ne lui amène aucune concubine. Et le gars, il est à jeun. Il ne sait rien manger de la nuit. Et le lendemain matin, il n'a pas dormi. La première des choses qu'il fait dès que le soleil se lève, il va vers la fosse aux lions. Et là, il crie Daniel, Daniel. Et là, Daniel répond, écoutez ceci. Daniel répond, Dieu m'a envoyé son ange pour me délivrer. Et il a fermé la gueule des lions. il a fermé la gueule des lions. Et Daniel a vécu une grande délivrance. Et Daniel, il dira, j'ai été sauvé parce que l'Éternel, le Dieu que je sers, m'a trouvé innocent. Je voudrais m'arrêter quelques instants là-dessus. Tu sais ce qui te freine ? Tu sais ce qui me freine ? Tu sais ce qui nous freine ? Dans notre combat qu'on doit mener dans la prière, c'est notre culpabilité. Or, il est écrit qu'en Christ, Jésus, je suis lavé et purifié. Qui d'entre nous pourrait dire qu'il était juste et qu'il était droit comme Daniel ici ? Levez la main. Bon, ça va, il n'y a que des humbles ici. Peut-être qu'à la maison, ils diront ce midi en moi pendant le repas. Bah, moi, je trouve que. Mais je n'ai pas osé parce que. Moi, c'est ce que je vais faire à ma femme, hein. Ma chérie. Daniel. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise ? Daniel, il était juste, mais qui d'entre nous pouvons nous targuer ou nous vanter d'être juste ? Si on regarde à nos propres œuvres, si on regarde à notre propre vie, jamais quelqu'un d'entre nous pourra proclamer qu'il avait la justice, la droiture de Daniel, et encore moins celle de Christ. Et il est écrit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu nous invite, parce que Jésus a ouvert une voie jusque devant le trône du Père, devant qui nous pouvons adresser toutes les prières et continuer 3 fois par jour, délibérément, malgré l'opposition, à le prier, en lui proclamant qui il est, en lui proclamant ses promesses, et en y entrant avec une entière persévérance et une entière régularité. Et ça, on le fait, vous savez pourquoi ? Parce qu'un jour, Jésus, il est venu sur cette terre pour que ceux et celles qui croiraient en son nom puissent, comme Daniel, prier, transformer les décrets des hommes. Il y a des décrets qui ont été lancés contre vous. Vous savez, dans le monde spirituel, on est en train de nous écouter. Je sais, ça vous surprend peut-être, pour ceux qui... Mais là, on est en train de nous écouter. Et ils sont en train de dire, moi, j'ai écrit ça sur la vie de telle personne. Moi, j'ai écrit, tu n'y arriveras jamais. Là, moi, j'ai écrit, tu ne seras jamais heureux. Moi, j'ai écrit, tu ne seras jamais guéri. Et c'est des décrets qui sont plantés dans les cœurs des gens. Parce qu'à coup d'écriture, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été écrit dans notre cœur par des paroles que nous avons permis d'écouter. Et ces décrets-là, ils sont amenés à disparaître, en tout cas à être transformés. Parce que le décret de Darius, c'est « J'ordonne maintenant qu'on honore, qu'on craigne le Dieu de Daniel. » Et je crois que Dieu veut transformer nos décrets d'hommes ou les décrets sataniques qui ont été écrits contre nous. Il veut les transformer, qui sont des décrets de malédiction. Vous êtes d'accord avec ça ? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est ça, en décrets de bénédiction. Parce que non seulement il honore Dieu, Darius, mais il dit, je demande qu'on honore ce Dieu-là et son royaume n'aura pas de fin. Sa domination durera toujours. Et je demande qu'on honore et qu'on craigne le Dieu de Daniel qu'il sert avec droiture et persévérance. Est-ce que je vous ai convaincu ce matin que votre vie peut impacter, votre vie de prière peut impacter le monde dans lequel vous êtes ? Est-ce que vous le croyez ? Je pense que. Ésaïe 54, c'est une promesse, et j'ai presque fini. Quand les montagnes s'éloigneraient, c'est Dieu qui parle à son peuple, hein, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Je voudrais qu'on puisse se le prendre pour nous, ça. et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice et nous savons que notre justice, c'est Christ. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, tiens, Daniel, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et vous savez ce qui s'est passé? Tous les gens qui ont accusé Daniel, leur famille, je veux dire, c'est craignos hein, ce qui s'est passé. Toute leur famille, tout le monde, tous ceux qui se sont ligués, eux, sont eux-mêmes tombés, ont fini dans la fosse aux lions. Et il est écrit que les lions brisèrent leurs os. Moi, je crois personnellement que ceux qui se liguent contre moi dans le monde spirituel finiront broyés parce que c'est la promesse que Dieu a faite pour moi. Amen. Je suis sanguinaire ce matin. Toute arme forgée. Écoutez bien ceci, c'est important. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tiens, tous ceux qui t'accuseront, tous ceux qui essaieront de te faire du mal, tu les condamneras. C'est toi qui les finiras par les juger. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est mon héritage, tel est votre héritage, et tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. À apprendre par cœur, je fais une interrogation écrite la semaine prochaine. Ça, quand on a ça, non mais je rigole pas, parce que quand, ça te fait rire, mais quand on prend ça, quand dans notre vie de prière, on commence à décréer les dés, ça c'est un décret divin, ça c'est quelque chose que Dieu a proclamé. Et trop souvent, je regarde le petit décret de malédiction contre ma vie. Alors que lorsque je prends ça, lorsque je le proclame, vous savez, ça ébranle les fondements même de l'ennemi et de nos ennemis. Daniel, un exemple d'une vie de prière qui impacte le monde. Daniel, est-ce que moi, ce que je vous propose ce matin, je vous propose qu'on puisse peut-être à un moment donné examiner, il y a peut-être des décrets qui conduisent nos vies aujourd'hui et qui nous conduisent souvent dans la fosse aux lions. Et peut-être, ce que je vous propose, vraiment, c'est votre responsabilité, ce n'est pas la mienne. Hein. Moi, j'ai fait que transmettre ce que dit Dieu dans sa parole. C'est que vous puissiez dire, aujourd'hui, je ne veux plus des décrets qui m'empêchent d'être un homme ou une femme qui prie, qui loue et qui honore Dieu d'une manière régulière. Je pense que Dieu veut... Le Saint-Esprit veut libérer des personnes ce matin qui sont liées dans leur vie de prière. Liées par des situations. Liées. Moi, pendant des années, j'ai prié pour une situation, ça n'est pas venu. Et je l'ai déjà raconté. Pendant 6 mois, les 6 mois qui ont suivi, j'étais incapable de prier. Je continuais de prêcher, je continuais à servir le Seigneur, incapable de prier tout seul. Parce que ça avait brisé mon cœur. Et je pense que Dieu veut restaurer la vie de prière de plusieurs d'entre nous ce matin. Et il veut nous faire entrer dans sa victoire. Il veut nous faire entrer dans son règne. Il veut qu'à travers nous, son règne vienne et que sa volonté soit faite. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Et la deuxième chose, je vais vous inviter à prier. Et je vais vous inviter à proclamer. Quelle est ta situation qui t'isole aujourd'hui? Quelle est ta fosse au lion? Quelle est ta fosse au lion? C'est peut-être la maladie? C'est peut-être des relations qui t'ont brisé? C'est peut-être des choses... Vous savez tout ce qu'on peut vivre. Hein, c'est peut-être une relation de travail difficile? c'est peut-être une prière qui... Vous savez, on a plein de fosses au lion. Mais ce matin, je demande vraiment que le Seigneur envoie ses anges et qu'il libère les situations dans la vie des gens. Voilà. Est-ce que je peux vous demander de vous lever pour louer le Seigneur ? Ceux qui n'ont pas besoin de prière, vous ne le faites pas. Mais vous louez le Seigneur, ok ? Honorez-le. Père, nous te prions ce matin. Et je lève mes mains vers toi. Je fais comme Daniel. Ce matin, je ferme les portes de Babylone. Je ferme les fenêtres de Babylone. Je ferme les fenêtres qui sont vers Babylone. Mais j'ouvre les fenêtres vers toi, Seigneur. J'ouvre les fenêtres vers ta parole. J'ouvre les fenêtres vers tes promesses. J'ouvre les fenêtres vers ce que toi, tu veux, Seigneur. Ce que tu déclares sur ma vie, sur ce que tu déclares sur ma famille, ce que tu déclares sur mon travail, ce que tu déclares au milieu de ce monde. Père, parce que je veux que ton règne vienne à travers mes prières. Et Seigneur, ce matin, je remets en route l'exercice de la prière. Je redémarre la prière dans ma vie. Je prends la décision ce matin de prier, pourquoi pas plusieurs fois par jour, en pliant le genou devant toi. Je veux rentrer dans la persévérance. Je veux rentrer dans la résistance à l'intimidation dans ma vie. Et ce que je te demande, éternel Dieu, maintenant tu libères mes frères, mes sœurs de l'esprit d'intimidation. Tu libères, Seigneur, s'il te plaît, ces personnes qui sont empêchées de prier. Et je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que la délivrance soit grande ce matin. Que la délivrance soit grande dans les familles, dans les couples, dans les situations vécues. Oh Dieu, je te demande ces choses et je te bénis de ce que tu vas faire ces choses. Au nom de Jésus, sois loué, sois béni, sois glorifié. Ce matin, Seigneur, je sors de ma fosse au lion. Ce matin, la porte est ouverte parce qu'il est écrit que toutes les situations, toute arme forgée contre moi est brisée en ton nom, Seigneur. Tu brises les armes, tu brises la lance, tu brises le javelot de Goliath, tu brises la lance de Goliath, tu brises son épée et avec sa propre épée, Seigneur, ce matin, j'abats les Goliaths dans ma vie, j'abats les Goliaths dans ma vie, Seigneur, et je déclare ton règne, je déclare ta volonté, je déclare ta puissance sur ma vie dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen.